Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court, tous les soirs, une conversation qui dure une heure avec des artistes, ce soir avec Boris Lochkine.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Boris Lochkine.
Les orteils vernis de rouge, les jambes pâles recouvertes par des bâches, d'autres jambes noires recouvertes par les mêmes bâches, inanimées pareilles, ce sera notre image oracle s'il en fallait une. Lorsqu'on rencontre Camille, le personnage principal de votre nouveau film, Boris Lochkine, inspiré de la vie de Camille Lepage et particulièrement de sa mort en Centrafrique tandis qu'elle couvrait en tant que photographe un très violent conflit intercommunautaire au printemps 2014, lorsqu'on la rencontre, elle est déjà morte. Cette première image réunit des corps différents dans une fin révoltante d'absurdité. Et c'est une des questions de votre film. Comment faire communauté humaine autrement que dans les ravages de la guerre, autrement qu'au prix de ces ravages? Quel sens pour une fraternité d'individus si éloignés en apparence par leur destin de vie? La fin du film, la mort de Camille, le sacrifice de tant de jeunesse nous laisse avec ces lourdes questions sur les bras, mais on hérite aussi d'un élan vital très singulier, celui de Camille, interprété brillamment par la comédienne Nina Meurice. Bonsoir à vous, Boris Lochkine.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, votre film est en salle aujourd'hui.
Aujourd'hui, absolument, oui.
Et on commence par une archive.
Camille Lepage a, semble-t-il, été victime d'un échange de tirs entre des combattants musulmans peuls et des miliciens anti-Balaka avec lesquels cette jeune Française avait embarqué il y a un peu plus d'une semaine maintenant. C'est à bord de leur pick-up que des hommes de la force Sangari sont découverts près de Bouar, dans l'ouest du pays. Quatre corps transportés depuis plusieurs jours, dont celui de Camille Lepage. Depuis maintenant 8 mois, cette jeune photographe était au plus près des combats en Centrafrique.
Bleu unité. Bleu unité. Il y a un convoi qui avance dans notre direction. Je répète, il y a un convoi qui avance dans notre direction. Il y a un 4x4 et il y a une dizaine de motos. David, est-ce que tu vois des armes en haut? David, est-ce que tu vois des armes en haut? Oui, confirmé, il y a des armes. C'est un groupe d'anti-balaka en approche. Qu'est-ce qu'on fait? Je répète, bleu unité, qu'est-ce qu'on fait? Groupe d'anti-balaka en approche.
Préparez-vous pour prise de contact. Vous prenez pas de risque.
Ok, on se prépare pour prise de contact. David, tu restes en haut.
Je reste en position.
Stéphane, tu débarques à gauche. Gaïano à droite.
Ok, c'est bon.
Je pense que c'est important d'entendre dans la longueur, Boris Lochkine, à quel point votre film commence dans un brouhaha et on entend ce soldat qui dit « j'entends rien ». Et une partie du film consistera à savoir qu'est-ce qu'on peut entendre dans un moment de grande violence, dans un moment de grande confusion. Ces soldats font face à une sorte de barrage, de convoi, et on découvre ce qu'on imagine très très vite être le corps inanimé de Camille, le personnage principal de votre film. Je disais que on sort de votre film avec plein de questions assez lourdes à porter. Et l'une qui est peut-être un tout petit peu moins lourde, mais qui nous rend très curieux, c'est qu'est-ce que ça lui a fait pour qu'il fasse un film dessus? Qu'est-ce que ça lui a fait la mort de Camille Lepage pour qu'il écrive ce film-là?
Je pense que c'est pas la mort de Camille Lepage qui m'a donné envie de faire ce film, même si c'est avec sa mort que j'ai entendu parler d'elle. Mais on fait pas un film juste pour raconter la mort de quelqu'un. On fait pas un film pour raconter un fait divers. Un film, pour moi, c'est 3 ans, 5 ans. Là, c'est plutôt 5 ans de ma vie. J'aurais pas consacré 5 ans de ma vie si c'était juste pour un fait divers. Donc c'est vrai que la mort de Camille Lepage avait accroché mon attention très fort. Mais quand j'ai commencé à lire des choses sur elle, à me documenter, à regarder ses photos, ce qui était important pour moi, c'était de savoir est-ce que cette personne elle-même, donc sa vie, son travail, sa manière d'être, ce qu'elle cherche, est-ce que ça m'intéresse suffisamment pour que je passe 5 ans avec elle? Et c'est ça la vraie question, en fait. Sa mort, elle est terrible, mais le film raconte pas sa mort d'ailleurs. Le film raconte beaucoup plus sa vie, sa quête. Et c'est ça qui me donne envie, puisque c'est ça qui fait que je me sens proche d'elle, en fait.
Toujours est-il que c'est l'annonce de cette mort, en tout cas ce nom-là, ou cette jeune fille-là, ou cette jeune fille dans cette situation-là, qui vous fait vous mettre au travail, qui vous fait vous mettre à l'écriture. Donc il y a quelque chose qui vous accroche, Boris Lochkine.
Oui, c'est-à-dire que c'est évidemment sa mort qui fait d'elle une héroïne. C'est, si elle n'était pas morte, Camille serait sûrement une très bonne photographe. Elle serait sûrement une personne remarquable et que j'aurais aimé rencontrer. Mais j'aurais pas fait de film sur elle, c'est sûr. C'est sa mort qui donne à sa vie le caractère de la tragédie et qui fait que sa vie peut devenir un film. Mais encore une fois, moi, les circonstances de sa mort ne sont pas spécialement intéressantes. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on laisse la mort elle-même hors champ dans le film, que le film ne montre pas sa mort. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que cette jeune femme cherche en Centrafrique? Qu'est-ce qu'elle cherche avec ses photos? En quoi elle est singulière? C'est-à-dire que Camille, à la fois, à travers elle, j'essaye de raconter là, ce que c'est que le photojournalisme, comment travaillent les photojournalistes, comment ils s'intéressent à un conflit, quelle place ils prennent dans un conflit. Mais Camille, c'est pas seulement une représentante de la profession. Elle a quelque chose de très singulier. Elle est spéciale. Et c'est parce qu'elle est spéciale qu'elle m'intéresse et que je suis prêt à lui donner 5 ans de ma vie.
Et assurément, et peut-être pour préciser ma question encore, Boris Lochkine, c'est parce qu'elle dévoile cette singularité-là que vous vous dites « je vais lui consacrer un film » ou c'est parce que simplement elle est une accroche, elle est une biographie qui vous permet de traiter une question que vous vouliez traiter précédemment?
Les deux. C'est-à-dire que c'est vrai que je réfléchissais depuis un moment à faire un film sur les reporters de guerre. Je réfléchissais aussi depuis un moment à faire un film sur un conflit africain. J'avais fait 2 longs séjours au Congo-Kinshasa, en RDC. Et finalement, j'avais rien fait ni de l'un ni de l'autre. Et je pense que tous les cinéastes, un peu comme moi, ont des sujets en attente qui parfois ne deviennent rien. Donc, à la fois Camille, tout d'un coup, quand je découvre sa vie, sa mort, elle vient répondre à cette envie que j'avais déjà. Mais justement, cette envie, elle l'incarne. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient intéressant vraiment pour moi de raconter les reporters de guerre. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, par exemple, de raconter les reporters de guerre à travers une jeune femme que de la raconter à travers un homme ou un homme de mon âge, par exemple, ce qui a déjà été fait plein de fois. Et de raconter à travers une jeune femme, tout de suite, on raconte autre chose. Tout de suite, on décale par rapport à tous ces films sur les reporters de guerre qui racontent tous un petit peu la même chose. Le mélange entre fascination, répulsion, l'adrénaline, le risque. Et là, j'ai l'impression que le faire à travers Camille, le faire à travers une jeune femme, quelqu'un de cette nouvelle génération très féminine de photojournalistes en zone de conflit, mais tout de suite ça décale complètement les questions et ça fait que le film n'est plus ne pose plus tout à fait les mêmes questions que tous ces films qu'on a déjà vus sur les reporters de guerre.
D'ailleurs, à deux moments, les femmes sont ramenées à leur genre et à leurs conditions de manière très forte. Camille, entrant en contact avec une communauté de photoreporters et de journalistes, qui est accueillie comme la petite jeune fille blanche qui vient se faire peur en Centrafrique. Et ensuite, sur un tout autre plan, à la fin du film, l'une des femmes, mère, que sais-je, sœur, fille, compagne de personnes qui s'entretuent et qui disent de toute façon, c'est toujours des hommes qui se battent et c'est toujours des femmes qui souffrent. Ça fait partie des autres questions que vous ouvrez avec ce film-là en ne faisant pas le portrait d'un vieux routard de la...
Un vieux baroudeur un gilet à poche. Oui, oui, c'est sûr. La question du genre, elle est présente. Je l'avais senti en faisant plein de rencontres pour préparer l'écriture du film. J'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui avaient connu Camille, qui faisaient ce métier, qui avaient été en Centrafrique. Et j'ai senti que la question du genre, elle se... Surtout, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de basculement dans la nouvelle génération, c'est-à-dire que ce métier traditionnellement très masculin, dans lequel se posent plein de questions, encore une fois, de courage, de très très lié à des problématiques de virilité, ce métier se transforme beaucoup aujourd'hui. Moi, j'étais très frappé quand j'étais à Perpignan au festival Visa pour l'image, le grand festival de photojournalisme, et j'ai rencontré beaucoup de ces jeunes photographes, et donc notamment beaucoup de jeunes photographes femmes, des jeunes femmes qui avaient la vingtaine, voilà, entre 20, 30 ans, et j'étais très frappé par cette génération de femmes très engagées, très informées, à la fois très loin du... Encore une fois, des codes du vieux baroudeur, de l'aventurier, tel qu'on l'a beaucoup vu au cinéma. Et en même temps, des filles réellement courageuses. Moi, j'étais très étonné de rencontrer une Américaine qui vivait au Yémen, une Française qui travaillait sur les FARC et qui passait beaucoup de temps avec les FARC dans la jungle, une Espagnole qui vivait en Égypte. Et à chaque fois, cette Américaine, je lui demandais, mais c'est possible pour une Américaine de vivre au Yémen? Ça semble dingue. Et il y en a plein, en fait, de ces jeunes photojournalistes comme ça, très courageux, pas du tout tête brûlée comme on peut parfois le lire et comme on le dit un peu bêtement vu de loin, parce que c'est des gens très informés qui savent exactement où ils mettent les pieds, qui travaillent sérieusement, qui savent les tenants et aboutissants, mais voilà, qui sont engagés et qui vont loin dans leur engagement.
On a entendu au début de l'émission un extrait d'archives radio de mai 2014 qui annonce la mort de Camille Lepage, et puis très progressivement, en profitant du son, on en reparlera plus tard, de votre film Boris Lochkine, on est entré dans la fiction. Comment est-ce que votre désir de fiction de cinéma est resté vivace, intact, quand la réalité devait peser si lourd, quand Marie-Yvonne Lepage, mère de Camille Lepage, crée toute une association, quand son père, son frère, quand il y a par ailleurs des enquêtes pour connaître les conditions réelles de la mort de Camille Lepage, bref, quand le réel demande sacrément à être ausculté de près.
Pour moi, c'est pas du tout antinomique, réalité et fiction, au contraire. Alors après, c'est ma manière à moi de faire de la fiction. Moi, je suis beaucoup plus inspiré par le réel, en fait, que par l'imagination. C'est-à-dire que c'est le réel qui me transporte et qui me donne envie de faire de la fiction. Et voilà, c'est sûr que dans l'écriture du film, il a fallu batailler pour à la fois ménager un certain nombre de vérités sur lesquelles on pouvait pas transiger, et en même temps amener de la fiction. Donc c'est vrai qu'il y avait des vérités sur lesquelles on pouvait pas transiger, c'est-à-dire que pour moi, je dirais trois ordres de vérités différents sur le film. Il y avait la vérité sur Camille, le personnage, c'est-à-dire qui était cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle voulait, comment elle travaillait, à quoi elle croyait.
Vérité que vous n'atteignez que par une forme de fiction, Boris Lochkine. Qui sait qui était Camille?
Personne, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont raconté Camille, et sans doute que la Camille que je raconte dans le film, c'est ma Camille à moi, mais en même temps, encore une fois, je voulais pas transiger sur certaines choses. Par exemple, je vais pas raconter une autre mort que celle qu'elle a eue vraiment, ou je vais pas raconter qu'elle faisait des photos à l'inverse de celle qu'elle faisait vraiment. Donc voilà, cette vérité de Camille, malgré tout, même si elle reste pour moi malgré tout un mystère, je pouvais pas transiger avec. Je pouvais pas transiger non plus avec la vérité du métier, parce que quand moi, cinéaste de fiction, je m'empare malgré tout d'un métier, le photojournalisme, mon principal souci, c'est que les gens qui font ce métier s'y reconnaissent. C'est ma plus grande peur, en fait, c'est qu'ensuite des photojournalistes voient le film et se disent, mais c'est pas du tout ça notre métier. Et c'est vrai que quand je préparais le film, j'ai rencontré plein de photographes qui m'ont tous dit, oh là là, les films, mais c'est nul, on est toujours mal représenté, ça se voit tout de suite qu'ils comprennent rien, que les réalisateurs comprennent rien à ce que c'est que la photographie, ils se sentent toujours trahis. Moi, c'est vraiment extrêmement important pour moi que si je raconte un métier, que les gens qui font ce métier se sentent bien représentés. Et pour le moment, d'après le retour que j'ai, ça va, on est bon.
Et la fiction, alors ?
Et la fiction, bah oui, c'est-à-dire que forcément, j'arrive, j'hérite d'une vie réelle, que encore une fois, je ne veux pas trahir, mais cette vie réelle, c'est comme un buisson avec plein de branches dans tous les sens. Aucune vie réelle n'est écrite comme un scénario. C'est-à-dire qu'une vie réelle, ça va, il y a plein de couches différentes, ça va dans plein de sens, et donc avec la même vie, on peut raconter 40 histoires. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver dans ce buisson qu'est une vie, à tracer un chemin, c'est-à-dire à faire que ces quelques mois de la vie de Camille Lepage, ce soit pas une chronique avec une suite d'anecdotes, mais que ça devienne un chemin.
Et ce chemin-là, c'est l'histoire que vous voulez raconter, Boris Lochkine, entre autres, par exemple, des amitiés, entre autres, la question des rencontres, possibles et impossibles, entre autres, le rapport à l'étrangeté, se trouver dans un endroit où, au départ, on comprend pas ce qui se passe autour de nous et où on cherche à comprendre. Ça devient vos histoires à vous, ça, Boris Lochkine?
Oui, ça devient mon histoire à moi, mais tricotée avec le matériau que me donne le réel. Et, à la fois, dans le film, tout est fiction, on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun des personnages secondaires du film, si je parle pas de Camille, il n'y a aucun des personnages secondaires du film qui soit un décalque d'un personnage réel. Ni les photographes français, ni les personnages centrafricains.
Et ni la mère de Camille.
Ni la mère de Camille, sur laquelle, qui n'est pas un décalque de particularité spéciale de Marie-Yvonne Lepage, mais qui joue un rôle beaucoup plus de figure, beaucoup plus symbolique. Il y a un rôle, à la fois, il y a peu de scènes avec elle dans le film, mais qui sont très importantes, qui jouent un rôle, je pense, émotionnel très fort pour le spectateur. Mais j'ai pas cherché à imiter Marie-Yvonne Lepage. Et si on parle des personnages centrafricains, par exemple, on a principalement trois étudiants. Camille rencontre un groupe d'étudiants dans lequel il y a trois étudiants, Cyril, Abdou, Leïla, qui vont finir par incarner en fait le conflit centrafricain et à travers eux, on va raconter le conflit centrafricain. Ces trois personnages, on peut dire, sont fictifs, même s'ils empruntent à plein de bouts de réel. Par exemple, Camille, la vraie Camille, quand elle est arrivée en Centrafrique, a vraiment rencontré un jeune étudiant qui écrivait du rap, qui a écrit ce rap anti-Séléka qu'on a réutilisé dans le film. Mais cet étudiant n'est jamais devenu un anti-Balaka, c'est-à-dire n'est jamais devenu membre d'un groupe armé. Ça, c'est la fiction. Donc voilà, y a tout le film, en fait, tricote de la fiction à partir de plein d'éléments du réel.
Est-ce qu'il y avait justement dans le tricotage de cette fiction à partir de l'élément du réel un des enjeux qui serait la compréhension, même superficielle, de ce qui s'est passé là-bas en 2014?
Moi, je déteste les films qui se passent en Afrique et où l'Afrique est une sorte de décor comme ça, qui est laissé derrière, mais un peu en jachère. Et on vous plante trois zèbres et une girafe et on vous dit c'est l'Afrique, ou on vous montre deux noirs qui s'entretuent et on dit ah, voilà, c'est ça, c'est une guerre, on comprend rien, de toute façon, c'est des noirs. Et je déteste ça. Donc c'était très important pour moi qu'un film où on traverse le conflit centrafricain, on essaye... Dans la mesure de nos moyens, qu'on essaye de transmettre au spectateur une compréhension des événements, en tout cas la compréhension minimale qui soit pas perdu et qu'il ait pas l'impression que cette réalité centrafricaine, c'est juste un décor dont on se contrefiche, en fait. D'autant plus que notre personnage principal, c'est une journaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui, elle, s'intéresse vraiment à qu'est-ce qui se passe, qui est qui fait quoi. Donc je trouve que si on veut être de plein pied avec notre personnage qui elle s'intéresse à ce conflit, on doit aussi s'intéresser à ce conflit. Et donc il y a forcément, enfin c'est important pour moi vraiment qu'on transmette au spectateur une compréhension de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il traverse pas ce conflit en se disant de toute façon voilà c'est juste une guerre africaine. Non, qu'ils comprennent un petit peu qui sont les Séléka, qui sont les anti-Balaka, comment le conflit évolue, quel rôle l'armée française joue quand elle intervient. Sans que ça devienne un film didactique, c'est pas un documentaire du tout. Mais voilà, il faut traverser cette réalité avec respect. Et le film se passe en Centrafrique, on l'a tourné en Centrafrique. Il faut que la Centrafrique existe vraiment et que le spectateur ait l'impression de comprendre un petit peu ce qui s'y joue.
On imagine que ça suppose pour vous, vous êtes documenté, d'avoir travaillé sur la situation politique et conflictuelle du pays à ce moment-là et aussi 5 ans plus tard. Mais on imagine aussi que ça supposait pour vous de comprendre où en était Camille Lepage dans sa compréhension du conflit au moment où elle fait ses photographies. Et ça, comment ça s'atteint, Boris Lochkine? Comment vous êtes en mesure de comprendre là où elle en était, elle, de sa propre compréhension?
En fait, j'ai eu accès à un matériau énorme pour écrire le film. D'abord, la première chose, c'est que quand je me suis dit que j'aimerais bien faire un film sur ça, la première chose que j'ai faite, ça a été d'aller trouver la famille. Donc, la famille Lepage. Je leur ai expliqué qu'est-ce que je voulais faire, pourquoi je m'intéressais à l'histoire de leur fille, pourquoi ça me touchait, pourquoi je trouvais que c'était quelque chose qui méritait d'être raconté, et d'être raconté dans un film de cinéma.
Vous leur avez dit quoi?
Mais je leur ai dit que je me sentais, non, il n'y a pas d'indiscrétion à ça. Je leur ai dit que je me sentais très, très proche de Camille, en fait. Que ce qui m'intéressait, c'était pas le fait divers de sa mort, mais c'était sa manière de travailler, telle qu'elle-même la racontait. J'avais lu notamment une interview d'elle où elle expliquait à un magazine américain comment elle travaillait au Sud-Soudan, comment elle habitait dans une petite maison dans un quartier périphérique où les expats n'allaient jamais pour raisons sécuritaires, mais où elle se sentait très bien pour habiter en colocation avec une Sud-Soudanaise, et elle circulait sur sa petite moto, et elle expliquait qu'elle ne voulait pas devenir une photographe de guerre, qu'elle ne voulait pas être quelqu'un qui zappe de conflit en conflit. Qu'elle cherchait à prendre un peu racine, à nouer des liens avec la population, pour arriver à faire un autre type de photo, plus empathique. Voilà, tout ça me la rendait très proche, en fait, parce que moi aussi, c'est vrai que j'ai passé quand même pas mal de temps à l'étranger, j'ai fait des projets à l'étranger, mon film précédent était déjà tourné en Afrique, j'ai fait avant des films au Vietnam. Donc voilà, tout ça faisait que ce qu'elle raconte de son désir de l'autre me touchait tout particulièrement.
Et ils ont dit quoi ?
Ils ont dit oui, mais ils ont pris le temps de la réflexion. Et puis quand ils ont dit oui, ce qui était formidable, c'est qu'ils m'ont livré en fait tous les contacts, c'est-à-dire tous les gens qui avaient écrit à Marie-Yvonne Lepage, la maman de Camille, après sa mort. Plein de gens de par le monde lui avaient écrit, des collègues, des gens qui avaient côtoyé Camille sur le terrain, lui ont écrit des messages pour lui dire leur émotion. La famille m'a donc confié ses contacts, ce qui m'a permis de rencontrer assez vite beaucoup de gens qui m'ont tous raconté plein d'anecdotes sur Camille. Comment elle était dans le travail, comment elle était... Et moi, ça m'a permis de reconstituer très, très précisément, même si ensuite, il y a une toute petite partie de ça qui est vraiment... qui se retrouve dans le film. Mais ça m'a permis de comprendre très, très précisément l'évolution de Camille, mois par mois, semaine par semaine. Et puis, j'avais aussi accès au disque dur de Camille. Donc, j'ai beaucoup regardé toutes les photos de Camille, pas seulement les photos publiées, pas seulement les photos de son site, mais toutes ces photos. C'est très impressionnant de regarder... Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on sait, il y a les métadonnées sur chaque photo, donc on sait heure par heure, minute par minute, qu'est-ce que ce photographe a regardé au long d'une journée. Et on peut suivre comme ça son regard, suivre tout ce qu'elle a vu. C'est totalement fascinant. On peut plonger là-dedans et y passer des mois et des mois.
Et justement, vous décidez de les faire vivre, ces photographies-là, de faire vivre ce que c'est que éditer des photos, faire des choix, les recadrer, les regarder quelques jours, quelques semaines ou quelques minutes après les avoir faits, et les intégrer comme un matériau à part entière dans votre film. On va écouter sur cette pluralité des matériaux, entre autres le réalisateur Stefano Savona.
Moi, je pense que les cinémas, c'est juste une question de point de vue. Soit la fiction ou le documentaire, c'est pas forcément multiplier les points de vue, mais c'est assumer des points de vue. Moi, je pense que pour moi, ça m'intéresse pas quand je vois pas, quand je reconnais pas les points de vue de celui qui est en train de regarder. La caméra, si la caméra devient une caméra de drone, ça m'intéresse. Je pense que c'est pas du cinéma en soi. C'est pas quelqu'un qui dit, au fond, tout l'art, pour moi, c'est quelqu'un qui dit je te raconte une histoire. Mais si je sens pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de me raconter une histoire, donc qui a un point de vue et qui est subjectif mais pas pour autant faux, je m'intéresse pas à l'histoire. Le documentaire encore plus, parce que là les points de vue, ça se négocie à tout moment sur le terrain. Donc c'est encore, ça extrémise quelque chose qui est quand même, qui fait partie de toute image produite, que ce soit de la peinture, du cinéma ou de la photographie. C'est toujours une relation entre quelqu'un qui regarde et quelqu'un qui est regardé. Donc, je vois pas comment ne pourrait pas être question de point de vue.
C'est la voix de Stefano Savona au micro de Romain de Bec de Lièvre dans l'émission Par les temps qui courent. Il était venu parler de Samoni Road, qui est un film composé lui-même d'images diverses, d'archives retravaillées, d'images animées, de dessins. Il y a une scène dans votre film, Camille Boris Lochkin, où cette jeune photo-reporter discute avec un homme plus âgé. On ne sait pas exactement quelle est sa condition. Peut-être c'est quelqu'un qui est chargé d'une iconographie dans un journal. Peut-être c'est lui-même un grand photoreporter. Peut-être c'est un journaliste.
Un directeur photo d'un magazine américain.
Voilà. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment ? Je vois rien, je vois pas de style, je vois pas ce qui t'intéresse. J'ai besoin de sentir une grande singularité, j'ai besoin de sentir un point de vue. Ça arrive très tôt dans le film Camille, Boris Lochkin. Et il me semble que ça met aussi en abîme une des questions qu'on vous adresse, quoi. Que je vous adresse d'ailleurs depuis le début de cet entretien. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? C'est quoi votre point de vue? C'est quoi la manière dont vous le regardez? Et comment vous avez fait avec les images faites par une autre?
Alors, dans le cinéma de fiction, la question se pose un tout petit peu différemment du cinéma documentaire. J'écoutais Stefano Savona à l'instant. Malgré tout, il y a quelque chose de commun. Moi, c'est sûr qu'en faisant un film sur Camille, qui est photographe, je dirais que l'enjeu principal de mise en scène pour moi, il est d'arriver à faire rentrer le spectateur dans le point de vue de Camille. Et arriver à le faire rentrer à un moment donné presque dans l'appareil photo de Camille. C'est-à-dire qu'il se met à regarder comme elle. C'est vrai que j'avais pas envie de faire un film, une sorte de biopic de Camille où on la regarderait travailler, mais où la question de la photographie serait pas prise au sérieux. Et où on se demanderait pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait comme photo, qu'est-ce qu'elle regarde. Et donc, voilà. Pour faire rentrer le spectateur dans l'appareil de Camille, pour faire qu'à un moment donné, il ait l'impression lui-même d'être en train de regarder et de pouvoir se poser lui-même directement les questions de...
Est-ce que je prends cette photo? Est-ce que je la
voilà.
prends pas?
Est-ce que est-ce je que la j'ai garde? Le droit de est-ce faire cette photo? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça aide les gens que je voudrais aider? Etc. Toutes ces questions qui sont posées à l'intérieur du film. Donc pour faire ça, on avait plusieurs moyens. L'un des moyens qui a été utilisé, c'est d'intégrer les photos de Camille. C'est-à-dire les vraies photos de la vraie Camille Lepage, qui apparaissent à plusieurs moments dans le film, pas toujours de la même manière d'ailleurs, mais qui apparaissent et qui toujours ont un double rôle. D'une part, ces photos, dans la mesure où c'est les vraies photos de la vraie Camille, elles ont une dimension qu'on pourrait dire documentaire, c'est-à-dire qu'elles nous rappellent que ce qu'on est en train de regarder, c'est pas que du cinéma. C'est du cinéma, oui, mais c'est aussi autre chose. Il y a du hors-champ autour de ce film qu'on est en train de faire, autour de l'histoire qu'on est en train de raconter. Il y a aussi la grande histoire. Il y a ces événements de Centrafrique qui ont vraiment eu lieu. Il y a des gens qui sont vraiment morts. Donc ça, il y a une force d'attestation comme ça de la photographie. Mais évidemment, les photos de Camille, elles ont un autre rôle qui est encore plus important en fait, c'est que c'est les photos de Camille. Donc quand on les regarde, on regarde pas simplement l'événement, mais on les regarde en se disant voilà, c'est ça qu'elle regarde, c'est comme ça qu'elle regarde. Ce qu'elle est en train de photographier, c'est pas seulement ces événements, mais c'est ces jeunes qui sont là, qui se dressent devant l'objectif avec cette énergie de vie incroyable. C'est ça qu'elle cherche en fait. Elle est en train de photographier par exemple le pillage de la mosquée Fou, mais en même temps qu'elle photographie ce pillage, ce qu'elle est en train de raconter, c'est la jeunesse centrafricaine. C'est cette sorte d'explosion de joie terrible, très dramatique aussi, mais cette explosion vitale, incroyable, avec ces jeunes qui sont devant l'objectif, souvent comme ça, flous alors que l'arrière-plan est net, ces gestes qui dégagent beaucoup, beaucoup de force, d'énergie, encore j'ai pas d'autres, je le répète parce que j'ai pas d'autres termes meilleurs que celui-là pour décrire ce qui se dégage de ces photos pour moi. Et donc voilà, quand ces photos elles rentrent dans le film, c'est aussi une manière de nous faire rentrer dans la tête du personnage.
Et ensuite, il fallait trouver des solutions cinématographiques pour ça. Comme vous le dites, vous les traitez d'une manière assez différente. Parfois, il y a du silence, ce qui est quand même pas rien dans un film qui est mouvementé, qui peut être, on l'entendait tout à l'heure, agité d'un point de vue sonore. Parfois, il y a une suspension du son. Parfois, il y a juste une sorte de fil sonore musical, voilà. Parfois, au contraire, il y a une sorte de brouhaha de vie fictionnelle qui continue d'exister par-dessus les images. Comme si à chaque fois, il avait fallu trouver d'autres et des singulières solutions cinématographiques.
Oui, parce que c'est pas un, c'est, voilà, c'est pas un film systématique. Le seul fil, c'est le fil émotionnel, c'est-à-dire qu'il faut être au bon endroit à chaque fois avec ses photos pour qu'elle nous fasse ressentir ce qu'on veut ressentir. Et encore une fois, ce qu'on veut ressentir, c'est ressentir l'émotion de Camille, les questionnements de Camille et les questions qu'elle renvoie et l'émotion qu'elle renvoie au spectateur lui-même. Mais voilà, rentrer dans le point de vue de la photographe, c'est pas simple. Ça passe avec ses photos et puis ça passe aussi dans le filmage lui-même, c'est-à-dire que l'appareil photo de Camille déteint en quelque sorte sur la manière dont on filme. Il y a plein de moments dans le film quand on filme dans les manifestations ou dans des scènes un peu agitées, comme vous dites, où la caméra reproduit en quelque sorte le mouvement du photographe en train de chercher qu'est-ce qu'il doit regarder.
Et parce que vous vous êtes laissé contaminer par ce regard ou parce que vous l'avez cherché? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a juste qu'à infuser en vous ou vous êtes dit il faut que je filme comme elle aurait photographié?
Ben non, on l'a cherché évidemment, c'est-à-dire que on l'a cherché de plein de manières différentes. On l'a cherché, on a adopté le format, un format tout à fait particulier au cinéma, qui est ce qu'on appelle du 1,5, c'est-à-dire que le bas de l'image fait 1,5 fois le haut de l'image. Et ce format, ce qui est un format inusité au cinéma, il se trouve que c'est le format des photos de Camille et de la plupart des photojournalistes. Donc rien qu'en choisissant ce format photographique, déjà, on s'impose un cadre, et puis c'est pas seulement, enfin, on s'impose une manière de cadrer et adapter à ce format, qui change plein de choses. Plus de corps, plus d'air au-dessus des têtes, plus de mouvement, forcément. Et puis, ensuite, on a vraiment beaucoup travaillé à partir des photos de Camille. Que ce soit pour le cadrage, que ce soit pour les costumes, pour les décors, pour les gestes qu'on travaille avec tous les figurants qui habitent ces scènes et qui leur donnent vie. Pour que vraiment, les photos ont vraiment été la matrice de la plupart des scènes du tournage.
Si bien que ça donne lieu à des choses assez surprenantes, en effet, où c'est des scènes, par exemple, de pleurs sur des corps et qui se fichent dans une photo qu'on réalise être celle de Camille. Et donc, c'est comme si vous aviez recomposé du hors-champ, pour le coup, Boris Lojkine. Vous dites, c'était hyper important pour nous de faire un film où le hors-champ soit très présent. Et là, c'est comme si le film, c'était les images de Camille, et votre film à vous, c'était le hors-champ des images de Camille.
Oui, lequel est le hors-champ de l'autre, je sais pas. Mais oui, le hors-champ, c'est important pour moi, parce que souvent, quand je vois des films de fiction, et même des films de fiction à très gros budget, où il y a les moyens de se payer 1 000, 2 000 figurants, je trouve toujours ça un peu kiki. C'est-à-dire que je vois les limites du champ, en fait. Je vois que... Je vois qu'on peut regarder, la caméra a le droit de regarder de ce côté-là, mais pas au-delà de la dernière ligne de figurant parce que derrière il n'y a plus rien, qu'on peut pas se déplacer à gauche parce que sans doute il y a un projecteur, que je vois la reconstitution des scènes et en fait j'y crois plus. Et je pense, et c'est pas juste parce que je suis un professionnel du cinéma, je pense que nous autres, tous, spectateurs occidentaux qui avons beaucoup de culture cinématographique, enfin, je veux dire, qui avons vu beaucoup de films, on est des spectateurs très blasés en fait. Je pense qu'on a vu tellement d'images de fiction que on nous la fait plus en fait, et que souvent les seules images qui peuvent vraiment nous étonner tout d'un coup, nous ramener de la surprise qu'on a perdue en étant blasé, c'est les images du documentaire, ou parfois même pas du documentaire, parfois des images de news, des images photographiées avec un téléphone portable dans la rue, des images qui nous ramènent une sorte de véracité, de surprise qu'on a perdue quand le cinéma n'est plus que ce cinéma artificiel de fiction. Et c'est pour ça que je trouve que pour rendre la sensation vraiment physique de la guerre, des événements, du tourbillon comme ça, d'une histoire en marche, on a besoin en fait de ce recours à d'autres images que les images de la fiction.
Vous étiez en Centrafrique pour rendre cette image de la guerre dont vous parlez, Boris Lojkine, donc vous étiez près de personnes qui ont vu autre chose que l'image de la guerre, qui ont vu la guerre elle-même, j'imagine, de près ou de loin. Qu'est-ce que c'était pour eux que de rejouer des scènes de deuil, que de rejouer des scènes de tuerie, que de rejouer des scènes de brousse, que de rejouer des scènes de combat, que de rejouer des scènes de groupements violents et s'entraînant à tuer?
Alors, il faut dire quand même que les gens qui jouent ces scènes-là sont pas les mêmes que ceux qui ont fait ces choses-là avant. C'est-à-dire que j'ai pas par exemple les gens qui jouent les miliciens anti-Balaka qui occupent la, toute la dernière partie du film ne sont pas eux-mêmes d'ex-miliciens anti-Balaka. C'était des taxis-motos de la, d'un quartier de Bangui avec qui j'ai travaillé. Donc on n'est pas non plus dans... Il ne s'agit pas de se refaire jouer exactement la même chose à des gens. On est vraiment dans jouer, enfin on est vraiment dans... Dans voilà, on fait du cinéma et ils sont venus faire du cinéma avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Maintenant, c'est vrai, c'est sûr, la proximité avec la tragédie, elle est réelle. C'est-à-dire que ces événements de Centrafrique 2013-2014, c'est tout récent, ça a 5 ans. Il y a encore eu des événements très tragiques à Bangui 6 mois avant le tournage. Donc tout le monde à présent a à l'esprit cette tragédie. Moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai fait le casting, par exemple. J'ai rencontré, je sais pas, 300, 400 jeunes pour chercher mes... ceux qui allaient jouer les étudiants dans le film. Et plutôt que leur demander de jouer une scène, ce qui amène une artificialité qui est pas très bonne quand on travaille avec des non-professionnels, je leur demandais de me raconter quelque chose de la crise centrafricaine qu'ils avaient vécu personnellement. Et c'était très frappant de voir que tous avaient quelque chose à raconter. C'est-à-dire que tous avaient soit vu quelque chose de terrible, soit... avaient perdu un proche, soit eux-mêmes avaient failli mourir, soit avaient eu très peur à un moment. Tous avaient été touchés par cette crise. Donc forcément, sur le tournage, il y avait parfois quelques sortes de télescopages douloureux. Je pense par exemple au moment où on tournait le pillage dans la mosquée Fou, cette scène. Encore une fois, qu'on ne tournait pas du tout dans une mosquée, où il n'était pas du tout question de profaner un lieu sacré, mais qui était une scène de cinéma faite avec des figurants et dans l'artificialité du cinéma. Mais malgré tout, l'un de mes assistants tout d'un coup s'effondre en larmes parce qu'il est musulman, parce que son père imam avait été molesté pendant les événements, et que tout d'un coup le fait de jouer cette scène, il jouait pas, lui il était assistant caméra, mais le fait de voir qu'on allait reconstituer cette scène, tout d'un coup il est en larmes, on arrête le tournage.
Bah oui, parce que vous faites quand même le choix de tourner là-bas.
Oui, parce que je pense que c'est essentiel, en fait.
Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr, probablement, ces jeunes gens ont joué avec plaisir et ont fait du cinéma avec l'artifice, etc. Mais vous n'avez pas tourné en studio à Saint-Denis ou en Algérie.
Bien sûr.
Donc, ce télescopage-là, vous le cherchez aussi en allant tourner là-bas.
Oui, alors on cherche ce télescopage tout en évitant... je dirais de mettre des gens dans des situations douloureuses comme c'était le cas là, mais voilà, on a interrompu le tournage et j'ai pris le temps pour parler avec lui et puis on lui a laissé le temps de reprendre ses esprits, de revenir tranquillement. Et à côté de tout ça, tout le chemin de ce film était pour lui très riche et il en était très heureux. Mais oui, je fais le choix de tourner en Centrafrique parce que ce qui me semble important, en fait, c'est que les gens qui participent au tournage se sentent investis dans le processus, en fait. Et que ce soit pas simplement des gens qui viennent, je dirais, de manière mercenaire pour gagner le cachet d'une journée et faire ce qu'on va leur dire et obéir aux ordres, mais qui viennent investis de l'envie de raconter des événements qui les touchent de près, donc des événements de leur pays, de raconter l'histoire de leur pays. Et de ce point de vue-là, ils étaient très investis, effectivement, dans... C'était important pour eux, en fait, de se dire, on va faire un film qui raconte... Certes, ça raconte l'histoire de Camille Lepage, jeune femme française, mais qui, à travers Camille Lepage, va aussi vraiment raconter une page de l'histoire de leur pays. Et c'était important pour eux de se dire que cette page, elle aurait le droit à l'existence au cinéma.
D'autant que c'est l'un des propos que tenait le plus fort et le plus haut Camille Lepage pour justifier sa présence en Centrafrique. Je veux raconter ce qui se passe ici.
J'ai 25 ans.
25 ans ?
Ouais.
Donc, t'as l'air de venir comme ça dans un pays en crise comme ça ?
Mais pourquoi tu me trouves trop vieille, trop jeune ?
Tu n'as pas peur.
Trop jeune.
Tu n'as pas peur de venir chez nous ici avec ces coups de feu ?
Bah ça m'intéresse.
Ah bon ?
D'accord.
Ça t'intéresse en quoi ?
Courageuse, toi. Et nous, ça nous rapporte quoi ?
Oui, qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on gagne ?
Tu parles de nous et tout.
Oui, mais qu'est-ce qu'on gagne ?
Quand tu fais une manifestation, toi, qu'est-ce que tu gagnes ?
Mais tu vois, c'est pour le pays, tu vois, mais...
Bah voilà, bah moi c'est pareil. Si j'avais envie de gagner beaucoup d'argent, je viendrais pas ici. Moi, je suis là parce que j'ai envie que les gens s'intéressent à ce qui se passe ici. J'ai envie de défendre votre pays, que les gens viennent en aide à ce qui se passe là.
Toi, tu es mariée.
Vous parlez tout le temps d'argent, mais on peut parler d'autre chose, non ?
Ben oui. Il t'a demandé. Tu es mariée ?
Non.
Et sans enfant?
Non, j'ai pas d'enfant.
Et tes parents ont accepté pour que tu sois là?
Bah oui.
Ils n'ont pas peur?
Tes parents? Si, certainement, mais ils me laissent partir.
Et toi aussi, t'as pas peur?
Moi, ça m'intéresse d'être là, en tout cas, de raconter votre
oui,
histoire.
Oui, ça t'intéresse, mais t'as pas peur? Vu que les Séléka tuent des gens ici, t'as pas peur?
Non.
C'est 150, hein. Paye pas plus.
La voix de Nina Meurice interprétant Camille dans votre film, Boris Lochkine, et sa tête dure. Et sa manière de tenir les regards, sa manière de répondre aux questions, sa manière de chercher un endroit juste pour se tenir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'hésite pas, qu'elle ne cherche pas, mais vous dessinez un personnage très fort là-dedans.
Mais je pense qu'on n'a pas le choix quand on est en Afrique. Et c'était un peu Nina...
En Afrique ou en Centrafrique à ce moment-là?
Je dirais en Afrique en général, en Centrafrique en particulier, mais de mon expérience d'autres pays africains, par exemple du Congo, RDC, est la même en fait. C'est-à-dire, et c'est sans doute ça que j'ai écrit dans le scénario aussi, à partir de ma propre expérience, c'est que c'est des pays où on est obligé de faire face. C'est-à-dire d'être là et d'expliquer qu'est-ce qu'on fait là, qui on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pourquoi on est là? Pourquoi
parce
on
que
est
quoi,
venu?
On est blanc parce qu'on est français.
Parce qu'on est blanc. Moi je me vois jamais comme blanc quand je suis à Paris et que je suis dans ma vie parisienne.
On devrait pourtant.
Je suis pas sûr qu'on devrait. Non, c'est bien de pas penser noir, blanc, mais dès que vous arrivez en Afrique et en Centrafrique en tout particulier, vous vous retrouvez tout de suite dans le rôle du blanc, c'est-à-dire parce que tout le monde vous le rappelle. Dans la rue, on vous appelle Munju en Centrafrique, qui veut dire le blanc ou la blanche, et tout vous le rappelle. Et parfois, c'est désagréable parce que parfois, ça vous fait le porteur d'une histoire dont vous ne voudriez pas être le porteur. Vous devenez l'héritier de la colonisation en quelque sorte. Et moi, je sais qu'au Congo, je trouvais ça très violent pour moi. Je me disais, mais moi, je suis pas le représentant du système colonial ou de l'histoire coloniale. J'ai rien à voir avec ça. Moi, j'ai jamais soutenu la colonisation, ni moi ni mes parents. Mais en fait, j'ai fini par accepter l'idée que, en fait, si, que je suis l'héritier de cette histoire et qu'il faut que je me débrouille avec. Mais se débrouiller avec, ça veut dire notamment qu'on doit en permanence justifier de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et je trouve ça très frappant dans la rue, en Centrafrique, si je me promène dans la rue, si j'essaye d'être discret ou de m'esquiver ou de me faire tout petit comme ça, ça marche pas du tout en fait, parce que les gens me voient de façon de loin, je suis le seul blanc dans le quartier, donc je peux pas être discret, et puis les gens vont prendre mon essai de discrétion pour un manque de considération. Si en revanche je vais au contact directement, si je regarde les gens dans les yeux, que je leur souris, que je les salue de préférence dans leur langue, Baramo, Barala, Baralakwe, ben tout de suite, c'est incroyable comment des regards qui au début pouvaient sembler durs se transforment en l'espace d'une seconde en des grands sourires, et tout de suite le contact devient facile. Mais on est obligé d'aller au contact. C'est ça que j'ai beaucoup expliqué à Nina. Moi, ma seule direction avec Nina Meurice, qui joue Camille, donc, c'était de lui dire toujours plus dur, plus dur, plus dur. Parce que voilà, Nina n'avait pas la même expérience de l'Afrique que j'avais. Et je pense que vivre en Afrique... Et encore plus quand on est journaliste, c'est-à-dire quand on n'est pas dans un bureau, mais qu'on est dans la rue, qu'on se promène, qu'on est au contact d'inconnus, un peu dans plein d'endroits différents, on est obligé de faire face. Et on est obligé d'être ferme, de savoir qui on est, de pas, voilà, on peut pas tortiller, on peut pas esquiver, on est obligé d'assumer ce qu'on est.
Est-ce que c'est parce que c'est l'Afrique, comme vous dites, Boris Lochkine, ou est-ce que c'est parce que c'est la guerre, parce que c'est la misère, parce que c'est la violence? Est-ce que c'est pas ces situations de tensions extrêmes qui demandent à chacun des êtres qui les traversent de savoir bien où ils sont?
C'est un peu tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'Afrique là-dedans, il y a quelque chose de l'héritage de l'histoire coloniale terrible, dont certains pays, notamment la Centrafrique, ont du mal à sortir. Parce que le pays est peu développé, et moins les pays sont développés, plus on est dans une situation néocoloniale qui est terrible, encore une fois. Mais évidemment, dans un pays extrêmement pauvre et un pays qui est zone de guerre, c'est l'Afrique puissance 10. C'est-à-dire que on est dans, voilà, tout est exacerbé en fait. Donc le rapport, on a toutes les barrières et tous les mauvais rapports en même temps. C'est le rapport entre journaliste et son sujet, ou entre le filmeur et le filmé, le rapport blanc-noir, le rapport riche-pauvre, et tous ces rapports se conjuguent en fait et rendent la rencontre difficile.
Dans l'extrait, on entend aussi la peur de Camille, du personnage Camille qui est interrogé. Et t'as pas peur? Et qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents? Et est-ce que t'es marié? Et en effet, cette jeune femme, tout le temps, dans l'identification que permet la fiction, on se dit, mais n'y va pas, mais prends pas cette bagnole, mais ne va pas voir ces mecs, mais ne monte pas dans les motos, ne va pas avec eux. Enfin, on a peur pour elle. En tout cas, moi, j'ai eu peur pour elle tout le temps.
Oui, bah c'est normal, ça fait partie après du travail du film que de vous faire peur.
Donc nous, on a peur pour elle. En revanche, on fait l'expérience d'un personnage de fiction qui n'a pas peur, qui en tout cas ne montre jamais qu'elle a peur. Elle traverse des barrages en gueulant sur des types, en disant « c'est la presse, tout va bien, avance, avance, avance ». Elle se rend quasiment sans trembler dans un endroit où elle est entourée de mecs qui ne semblent avoir envie que de la tuer. Et elle est tout le temps debout, quoi.
Alors après, sans peur, je sais pas, de la scène du barrage que vous mentionnez, effectivement, Camille écrit « avance, avance », mais enfin, on sent à sa voix qu'il y a un petit peu de... La tension monte quand même. Mais oui, je crois...
Mais quel sang-froid, enfin, elle est...
Ah ben oui, il faut du sang-froid pour faire ce métier, et je pense que Camille Lepage avait beaucoup, beaucoup de courage. Ça, tous les témoignages des gens qui m'ont parlé d'elle m'ont dit qu'elle avait un courage, un sang-froid incroyable. C'est pas seulement le courage, parce qu'après, il y a des têtes brûlées qui font un peu n'importe quoi, ce qui n'était pas le cas de Camille. Je pense que c'était quelqu'un de, oui, très calme. Et je pense que c'est surtout une foi fondamentale en l'humanité. C'est-à-dire la croyance que, voilà, vous avancez vers un checkpoint où il y a des miliciens qui sont peut-être très menaçants, qui brandissent des armes, qui ont la poitrine couverte de gris-gris et qui font plein de gesticulations. Mais la croyance fondamentale qu'on peut parler, par exemple. Que même avec des gens qui sont excités, tout ça, mais on peut parler. Et que si on parle, ben on va trouver un langage commun.
Sauf que ça, c'est une croyance qui souvent tombe dans des situations de très très grande violence. Et en effet, c'est des moments assez beaux que vous filmez, Boris Lushkin. En effet, c'est hyper tendu et elle distribue des cigarettes autour d'elle. Elle fait descendre la tension en deux secondes juste en faisant ça. On imagine que ce sont des moments qui existent, mais on imagine que c'est aussi des moments où parfois ça achoppe.
Oui, mais ça existe vraiment. Moi, je l'ai beaucoup vécu en Afrique, encore une fois, au Congo, en Centrafrique, des moments où c'est très tendu, où tout d'un coup, vous êtes entouré d'une foule qui a l'air très hostile et tout ça. Et puis, vous trouvez le ton, vous trouvez la plaisanterie qui va désamorcer la chose, ou simplement vous montrez aux gens que vous avez une vraie considération pour eux, que vous les regardez vraiment, que vous vous intéressez à eux, que vous voulez savoir comment ils s'appellent, que, voilà, que vous n'êtes pas quelqu'un qui passe et qui prend de manière un peu prédatrice, comme ça.
Vous avez eu peur de ça? Avec ce film-là, vous avez eu peur de prendre et de partir comme Camille en est suspectée?
Ben c'est quelque chose qui... Oui, bien sûr, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que c'est vrai que je sais que c'est quelque chose que les Centrafricains reprochent beaucoup aux reporters qui sont venus dans leur pays. Ce qui fait qu'au début de la crise centrafricaine, tous les reporters étaient bienvenus. Les gens leur disaient au contraire, viens, regarde, filme,
parle
photographie,
de nous, ouais.
Parle de nous. Et plus la crise a avancé, plus ils ont vu passer de reporters qui venaient, prenaient et partaient. Plus ils se sont lassés en fait d'être photographiés. Et puis au bout d'un moment, ils ont commencé à caillasser les reporters et à être très hostiles en fait à ces gens qui venaient les regarder et les filmer. Donc oui, forcément quand on fait de l'image, il y a une dimension prédatrice dans l'image. Et c'est une vraie question. Et pour moi, c'est pour ça que c'était très important de nouer avec le pays une relation forte qui aille aussi au-delà du film.
Il y a une scène extrêmement belle où le jour se lève et où Camille est filmée de près, le visage de Nina Meurice et une autre femme noire, et toutes les deux elles guettent le bruit des bombardements et le son est étouffé et on ne sait pas bien si c'est parce que les bombardements sont loin ou si c'est parce que c'est un geste de réalisation et de réalisation sonore de nous mettre comme ça dans une sorte de qui-vive. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de son, maintenant.
Je crois que la pensée du sonore du cinéma ne peut s'établir qu'en fonction d'un comment faire. Mmh. C'est-à-dire que il faut être confronté à la difficulté de la construction, pour se poser les questions. Je crois que c'est pas de toute façon aux gens du son de penser le son, c'est pas une question de technique, c'est aux gens de la réalisation de penser le son. Le son est une affaire d'écriture. Et je pense que cette question de l'écriture, elle n'est pas datée, c'est intemporel. Je crois que la question de l'écriture sonore au cinéma, ça existe de tout temps et de toute modernité ou de toute historicité. La part sonore est une part qui est sous-estimée, qui est sous-investie. Alors, la difficulté, bien sûr, c'est de la penser en amont, de la penser à l'avance. Et ça, c'est une sorte d'aporie, quoi. On est bloqué, on peut pas aller très loin dans la pensée du sonore, puisque le sonore n'est que le sonore d'un événement. Mais on peut quand même assembler ou associer des situations qui font que le sonore va travailler.
C'est la voix de Daniel Dehaye, un grand monsieur du son, au micro de Thomas Baumgartner dans l'émission Les Passagers de la Nuit sur France Culture. Boris Lochkine, je parle de cette scène-là où deux femmes si différemment liées au destin de leur vie se trouvent liées au destin d'un son, par le destin d'un son de bombardement. Mais en fait, il y a plein de moments où par le son et la réalisation sonore, vous agissez très fort sur nous et sur notre regard. On entendait Daniel Dehaye dire, est-ce que ça s'écrit avant, est-ce que ça s'écrit pendant, est-ce que ça s'écrit après? Comment vous l'avez pensé, vous?
Alors, il y a un peu, effectivement, un peu avant, un peu pendant, un peu après, un peu tout ça. Je suis très content qu'on parle de son parce que il y a eu un énorme travail de son sur le film et que je pense que c'est un vrai film de son. Pour partir d'un autre exemple que celui que vous citiez, on avait déjà au moins un problème de base, c'est que on met des photos dans le film. Les photos, elles sont pas sonores par définition, c'est des photos. Qu'est-ce qu'on va mettre comme son par-dessus ? Donc déjà là, on avait une question qui dépasse un petit peu les questions habituelles de juste avoir un son qui
montage est, son, mixage son,
montage etc. son, un son audible où on entend les paroles, etc. Ça posait plein de questions différentes, c'est-à-dire que c'est à la fois des questions, je dirais, de l'ordre de l'émotion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de ressentir sur ces photos. C'est aussi des questions d'ordre presque déontologique. Comment est-ce qu'on reconnaît, par exemple, qu'on passe du cinéma de fiction à un décrochage dans l'archive ou dans la photo? Voilà, et toutes ces questions étaient mêlées, nous ont obligés, là encore une fois, à tricoter des choses assez subtiles, en fait, pour que dans le son, on soit pas toujours réaliste, mais toujours en revanche dans le point de vue de Camille.
Et ça devait être des questions... Parce que là, on pourrait dire qu'on parle de questions très techniques. En réalité, si on vous écoute, Boris Lochkine, c'est des questions très éthiques. La manière dont vous avez dû, par exemple, je ne sais pas, imaginer les pleurs d'une femme qu'on voit sur un document d'archives en train de pleurer la mort de son fils ou de son neveu ou de que sais-je. D'un seul coup, vous produisez un son par-dessus l'image de Camille Lepage, signée document archive. Vous agissez sur ce document-là d'une manière qui pose une question déontologique et une question éthique.
Oui, et on le fait de manière pas tout à fait classique. On le fait au son, on le fait à l'image. C'est-à-dire que je dirais que la manière classique aurait été de séparer, de mettre bien à gauche les images de fiction et bien à droite les images d'archives, et que les deux soient clairement séparés. Or, il y a des moments dans le film où la séparation est nette, et il y a au contraire des moments où on circule de l'un à l'autre, ce qui produit un trouble chez le spectateur qui est un trouble que je cherchais. Voilà, c'est-à-dire que donc je dirais qu'on a pas forcément respecté cette sorte de déontologie
sauf à trouver un petit peu
réglementaire, on pourrait dire, du traitement de la sonore de l'archive. En revanche la question éthique, elle est là, puisque si on parlait des questions des pleurs, par exemple, qui interviennent sur les photos de Camille, alors c'est vrai que c'est quelque chose que je m'autorise, qui est une sorte de violence faite à la réalité de cette photo, puisque on met sur cette photo prise en 2013 les sons des pleurs d'une figurante qu'on a enregistrée en 2018. Mais pour moi, ce qui autorise ça, en fait, c'est toujours d'être juste dans le ressenti. Et là, en l'occurrence, on a fait attention il fallait quelque chose qui accompagne cette image, mais pas trop non plus. C'est-à-dire, il y a un moment donné où on a aussi retiré de ses pleurs. Et c'est des questions qu'on s'est posées jusqu'au bout du mixage. C'est-à-dire, est-ce que il faut y aller à fond avec des pleurs déchirants, ou est-ce qu'au contraire on garde quelque chose de beaucoup plus tenu, qui donne une incarnation sonore à ce qu'on voit à l'image, mais qui reste un petit peu en deçà. Voilà, c'est des questions de distance en fait, qui moi je trouve, en tout cas c'est ma manière de faire, ne s'évalue qu'au cas par cas, de manière très pragmatique en fait.
Une des questions avec laquelle on repart de ce film-là, et notamment à travers les mots de peut-être Camille Lepage, je ne sais pas si c'est une archive, on la voit devant un ordinateur en train de dire « ils ont mon âge, ils ont tué, est-ce qu'on peut voir qui a tué dans le regard de quelqu'un qui a son âge ?» L'effet miroir en effet de leur deux jeunesses, c'est comment on fait communauté humaine, comment on fait fraternité, qu'il s'agisse des musulmans et des chrétiens en Centrafrique, qu'il s'agisse de Camille Lepage avec les personnes qu'elle photographie, qu'il s'agisse de vous avec Camille Lepage, de vous avec les personnes qu'elle photographie, etc. Est-ce que vous vous êtes un peu plus débrouillé avec ces questions après le film que avant?
Moi, je me sens très bien avec le film. Je veux dire que dans le chemin du film, je parle pas du résultat, mais je parle du processus. Il y a eu vraiment quelque chose de très beau, en fait, qui s'est noué, notamment dans le travail fait en commun entre les Français et les Centrafricains. Et je pense que ça doit se voir d'une manière ou d'une autre dans le film. Je pense que ça se voit quand même, que c'est pas juste un film fait par un Français ou des Français en Centrafrique, mais que c'est un film qui a été fait avec des Centrafricains.
Non, mais moi, ma question, c'est que une des questions portées par le film, c'est comment on fait communauté, comment on fait fraternité. Est-ce que c'est un film qui vous a permis de répondre à titre personnel, en tant qu'individu, un peu mieux après l'avoir fait?
Oui, ben c'est pour ça que je me sens très proche de Camille depuis le début, c'est-à-dire que la voix off qui est dans la bouche de Camille à la toute fin du film, lorsqu'elle dit qu'elle a trouvé sa place et que même si on la regarde toujours comme une étrangère, même si elle a rien à voir avec cette guerre qui n'est pas la sienne, malgré tout elle se sent à sa place avec ses frères humains. Plus vivante que jamais. Ces phrases, c'est mes phrases en l'occurrence. C'est ce que moi j'ai envie de dire quand je suis en Centrafrique. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du rapport d'équipe aussi, parce que c'est très important pour moi qu'il y ait une sorte de cohérence de sens général. C'est-à-dire que l'histoire qu'on raconte soit en phase avec l'histoire du tournage, l'aventure du film. C'est-à-dire que si on raconte l'histoire de cette jeune photographe très idéaliste qui se dédie à la cause centrafricaine, ben il faut que le film épouse ce mouvement-là, ce même mouvement, c'est-à-dire que le film se fasse avec les Centrafricains, aussi dans une fraternité, dans la fabrication du film.
Merci beaucoup, Boris Lochkin.
Merci à vous.
Camille est en salle à partir d'aujourd'hui. C'est avec la toute jeune Janis Joplin qu'on termine cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Clément Daté. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Lou Que Vous Viez, Lucie Riandé, Marianne Chassor et Jeanne Aléos. Dans un instant, c'est le journal 22h sur France Culture. Et l'émission, elle se réécoute quand vous voulez, franceculture.fr ou en podcast via l'appli. Très belle soirée.